Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session de présentation des nouveautés de WinJS 2.0. Donc je suis accompagné de Soria qui va se présenter.
Donc Soria, donc je suis consultante chez Infin Square depuis 6 mois maintenant. Et je travaille avec Thomas sur pas mal de Windows 8, Windows Phone en développement d'app.
Voilà. Voilà. Donc, et moi-même, Thomas Lebrun, je fais la même chose depuis plus longtemps. C'est toi qui as les slides. Donc rapidement, en deux mots, donc Infinity Square, on est une société de services et d'expertise autour des technologies Microsoft. On ne fait que du Microsoft. Et on fait beaucoup de Windows 8, Windows Phone et toutes ces autres petites technos qu'on adore assez énormément. N'oubliez pas de donner votre avis à la fin de la session, déjà parce que vous pouvez gagner des cadeaux, ça c'est le point qui est cool, et surtout parce que nous ça nous permet d'avoir un petit feedback sur ce que c'était bien, ce que c'était pas bien, ce qu'on doit ou ce qu'on peut améliorer, ce genre de choses. Voilà. Ok, donc cette session c'est une petite introduction en fait à WinJS 2.0. Donc juste avant de commencer, combien d'entre vous développent déjà avec WinJS 1.0 ? Ok. Combien d'entre vous savent ce qu'est WinJS 1.0 ? D'accord, ok, j'ai eu peur. D'accord. Bon, donc du coup, vous découvrirez les nouveautés sans savoir ce que c'était nouveau, hein, faudra nous croire sur parole. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, un petit rappel d'introduction. Donc WinJS 1.0, je le dis comme ça pour tout le monde, c'est la technologie en fait, enfin c'est une des technologies pardon, qui a été proposée par Microsoft pour permettre le développement d'applications Windows 8.0. Donc quand Microsoft a sorti Windows 8.0, ils se sont dit, bah ok, très bien, on a une technologie qui est mûre, qui est mature, qui commence à exister depuis pas mal de temps, qui s'appelait XAML, on va la garder, d'accord, pour permettre le développement des applications sous Windows 8. Et à côté de ça, il y a aussi tout un écosystème de développeurs, d'accord, qui sont les développeurs web, qui ont l'habitude de travailler avec HTML, CSS et JavaScript. Et ben, on va essayer de les récupérer dans l'écosystème Microsoft pour faire du Windows 8. Donc Microsoft a sorti Windows 8 avec ce framework WinJS, donc Windows JavaScript Library, donc qui n'est ni plus ni moins qu'un framework, hein, c'est un framework de composants, d'utilitaires, pour développer des applications Windows 8 en HTML, JavaScript et CSS. Donc ça, c'était la première version. Ça a bien vécu, ça tourne. Il y a beaucoup d'applications qui sont publiées sur le store qui utilisent cette techno. Et avec Windows 8.1, Microsoft, ils ont tout simplement introduit une nouvelle version de ce framework, parce que c'est vraiment un framework à part entière. Microsoft a vraiment introduit une nouvelle version de ce framework. Donc c'est pas une simple évolution du framework. D'accord ? Comme Windows 8, on est passé à Windows 8, ils auraient pu faire WinJS 1, WinJS 1.1. Mais ce n'est pas une simple évolution, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait, dans WinJS 2, il y a des nouveaux contrôles, il y a énormément d'optimisation de performance, il y a des nouveaux utilitaires, donc ils se sont dit, en gros, on fait une grosse mise à jour et on appelle ça WinJS 2.0. Et dans WinJS 2.0, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, ah oui, juste avant, j'ai oublié ce slide qui me tient assez à cœur. Il y a beaucoup d'applications qui sont présentes en fait sur le store, qui sont développées en HTML JavaScript, mais il y a aussi beaucoup d'applications qui sont présentes au sein même de Windows, qui sont développées avec WinJS, donc en HTML, JavaScript et CSS. Alors, il y a des applications qui sont assez basiques. Ça reste complexe, mais ça reste basique dans l'idée, c'est l'application musique, c'est un player de vidéo, audio-vidéo. On sait le faire dans d'autres technologies, hein. HTML5 sait le faire direct de base. Par contre, il y a des applications légèrement plus complexes, type Skype, où là, il faut gérer l'audio, la vidéo, la communication en temps réel, donc c'est quand même un niveau un petit peu au-dessus, qui, ça, typiquement Skype, est développé en fait en HTML JavaScript sous Windows 8, 0.0 ou 0.1 d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont développées comme ça, et il faut continuer à en développer. Plus vous allez en développer, plus vous allez trouver des choses en fait à améliorer dans ce framework WinJS, et plus vous allez pouvoir proposer justement ces choses à améliorer à Microsoft. Et Microsoft est très fervent justement de feedback à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans WinJS en un slide ? Alors, c'est compliqué de tout mettre en un slide, d'accord ? Parce que c'est ce qu'on vous a dit en fait en plénière. Dans Windows 8.1, il y a eu plus de 5000 nouvelles API, donc je n'allais pas mettre les 5000 API sur le slide, ça ne rentrait pas, ce n'était pas possible. Donc nous, on a essayé de se focaliser sur les grosses nouveautés qu'on retrouve en fait dans WinJS 2.0. Donc c'est des contrôles améliorés. C'est-à-dire qu'il y a une liste view qui existait en Windows 8.0 et une app bar qui étaient deux contrôles déjà existants. Ben là, dans Windows 8.1, Microsoft a complètement réécrit, excusez-moi, ces différents contrôles d'un point de vue performance et utilisation. Donc les performances n'ont plus rien à voir entre Windows 8.0 et Windows 8.1 quand vous utilisez par exemple une liste view. Donc il y a des nouveaux contrôles, des contrôles améliorés, pardon. Il y a des nouveaux contrôles, donc qu'on verra en démonstration. Typiquement le hub pour la mise en avant de contenu, un back button. C'est trois fois rien, c'est un bouton. Quand on clique dessus, ça fait une navigation back. On savait le faire avant, là ça a été factorisé dans un contrôle. Il y a des petites nouveautés au niveau de... Alors, ce que Microsoft a mis dans la catégorie infrastructure, donc c'est en gros un peu toute la plomberie qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, un scheduler pour s'assurer que nos fonctions s'exécutent en fonction de priorité, le pattern dispose pour le nettoyage des ressources, faciliter le débogage asynchrone, et après on a également toute une partie sur l'optimisation des performances des templates, un petit contrôle pour faire un repeater, qu'on connaissait déjà en XAML, en ASP.NET, etc. Et puis un item container aussi, autre contrôle qui permet de retrouver les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a dans une grid view, mais sur un contrôle qui se balade par exemple au milieu de l'écran. Donc si vous voulez pouvoir sélectionner une image, vous la mettez dans un item container et directement en fait, vous avez la notion de sélection avec la bordure, l'item click, ce genre de choses. Donc voilà les grosses fonctionnalités, donc on va essayer de les détailler. Pardon. On va essayer de les détailler un petit peu plus en détail, mais si on devait essayer de résumer un petit peu WinJS en un slide, WinJS 2.0 pardon, en un slide, c'est ça. C'est des nouveaux contrôles, des contrôles améliorés, toute une infrastructure qui a été un petit peu revue, et d'une manière générale, de forte optimisation de performance. Alors quand on parle des perfs, justement, voilà les. Alors c'est pas des stats que j'ai réalisées, je vous le cache pas. Mais voilà les stats réalisées par Microsoft quand il s'agit par exemple de manipuler une liste view, donc qui est quand même un des contrôles les plus complexes en soi en Windows 8. Donc quand il s'agit de manipuler une liste view avec 1000 éléments. Donc 1000 éléments, hein, ça va très vite. Et on se rend compte que bah, voilà, quand il fallait insérer ou supprimer 1000 éléments sur WinJS 1.0, donc sur une surface RT, donc c'est-à-dire processeur ARM, c'est-à-dire meilleure batterie mais performance dégradée, on mettait environ 750 millisecondes. Donc on se dit 750 millisecondes, c'est rapide, hein, c'est même pas une seconde, ça passe. Alors oui, c'est rapide, le problème c'est que bah, à force de ressentir des lags dans les applications, c'est quelque chose qui se voyait vraiment sur les machines. Donc sur une surface RT, quand vous faites défiler comme ça le menu démarrer et qu'il y a 4, 5, 6, 10 pages, vous ressentez quand même des effets de lag au bout d'un moment. Ou alors vous avez l'impression que les éléments ne se chargent pas directement. Et ben ça, Microsoft l'a complètement retravaillé dans WinJS 2.0. Et pour les mêmes opérations, si tu peux appuyer, pour les mêmes opérations, encore, par exemple, l'insertion ou la suppression, on est passé à 500 millisecondes. Donc on a gagné 30% de performance, par exemple, pour l'insertion. Donc 30%, c'est pas énorme, ça commence à être pas mal, mais c'est pas énorme. Par contre, à l'utilisation réelle, là, on a vraiment la différence qui se fait sentir. On a une petite vidéo qui a été montrée à la bulle, en l'occurrence. Donc c'est l'application Mail qui est visitée à la fois en WinJS 1.0 et en WinJS 2.0. Et regardez bien ce qui se passe en fait quand on fait défiler les éléments. Donc là, on a plus de 1000 éléments, vous allez voir ce qui va se passer. On fait défiler, et vous voyez les blocs gris qui apparaissent, c'est tout simplement le template qui est en train de s'afficher. Donc il n'a pas encore le temps de s'afficher, il y a une passe de rendu qui doit se faire, etc. Et du coup, on a une différence entre la version 1.0, où on voit finalement que quand on fait défiler beaucoup d'éléments, il y a une passe de rendu qui se fait, et dans la version 2.0, là c'est une mailbox, donc la même mailbox s'affiche, et les éléments s'affichent directement. Donc c'est pas que ici on a fait défiler les éléments plus lentement, d'accord, c'est la même vitesse de défilement, il n'y a pas de souci. C'est juste que les performances d'affichage ont été vraiment retravaillées à ce niveau-là chez Microsoft. Donc je peux vous dire que je pense qu'il y a des gens chez Microsoft qui n'ont pas dû beaucoup dormir pour sortir cette version, en fait, dans les temps, en l'occurrence. Ça n'a vraiment rien à voir entre la version 1.0 et la version 2.0. À minima, sur une tablette ARM. Sur un PC, comme vous l'avez sans doute, ou comme moi je l'ai, c'est un processeur, il y a 4 cœurs, il y a 32 gigas de RAM. La différence, on ne la voit pas, en fait. Clairement, on ne la voit pas. Par contre, monsieur tout le monde qui est chez lui avec sa tablette, il a acheté sa tablette pas chère, il a une très bonne autonomie, par contre, il a des performances qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, puisqu'il n'en a pas besoin. Lui, il va voir la différence, en l'occurrence. Pareil, donc, juste au niveau de l'affichage des templates, donc ce qu'on vient de voir juste au niveau de la vidéo, pour l'affichage de 100 templates, on était à 90 millisecondes. Donc c'est pareil, hein, c'est un quasi instantané, mais gardez toujours cette notion en tête sur Surface RT, processeur moins puissant, temps d'accès au disque beaucoup moins rapide. Du coup, on était à 90 millisecondes et avec du WinJS 2.0, on passe à... je ne sais plus combien, 40 millisecondes, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, à peu près 40 millisecondes. Donc là, on gagne quand même environ 50% de perf. C'est clairement pas négligeable. Donc les optimisations que vous pouvez voir dans l'application Mail de Windows 8.1, bah, vous pouvez les retrouver nativement, en fait, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit juste de recompiler votre application Windows 8.0 avec le SDK WinJS 2.0, et automatiquement, vous allez bénéficier de ces optimisations de perf. Il n'y a pas eu que des améliorations de performance au niveau de la list view. Il y a eu des nouveautés en termes d'utilisation. Typiquement, sur la list view, il y avait une des choses, alors on ne l'a pas mis là, on vous le montrera en démo, mais il y a une des choses qui manquait sur la list view WinJS, c'était le drag and drop. Le fait de dire, voilà, j'ai deux éléments, enfin, j'ai deux listes avec des éléments différents. Hop, je vais prendre mes éléments, je vais les drag and dropper. Comme on le retrouve un petit peu sur le menu démarrer de Windows 8. Donc il y a tout un système de drag and drop comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dashboard Windows 8 ou Windows 8.1, ce menu démarrer Windows 8, il est fait entièrement, lui, en HTML, JavaScript et CSS. Donc c'est la même techno que ce que vous pourriez utiliser. Par contre, toute la partie drag and drop a été gérée entièrement via du code custom. Donc c'est pas quelque chose qui était directement embarqué, c'était vraiment du code custom. Et bah du coup, dans WinJS 2, Microsoft, ils se sont dit, y a un truc qui existe dans la version XAML, si on essayait de le mettre dans la version WinJS, en l'occurrence le drag and drop, et on va voir qu'effectivement, Microsoft a rajouté cette fonctionnalité de la manière la plus simple possible, on le verra en démo juste après. Autre chose qu'a rajouté Microsoft, la possibilité en fait, d'avoir différents types de layout au niveau de notre list view. Habituellement, les list view, c'était un affichage vertical. Dans WinJS 2.0, on peut avoir un affichage vertical, mais avec des groupes, chose qu'on ne pouvait pas faire simplement avant dans Windows 8.0. On peut avoir un layout de type cell spanning, c'est-à-dire des cellules qui se répartissent sur plusieurs lignes ou colonnes. On peut avoir un vertical layout, ou on peut avoir n'importe quel autre type de layout, parce que si vous dites, j'aimerais bien que mes éléments ils s'affichent sous forme de carousel, par exemple, à ce moment-là, ce n'est pas de base dans Windows 8.1, il faudra le faire vous, l'algorithme, il suffit juste d'implémenter e-list layout 2 dans votre code. Alors vous pouvez le faire, c'est un peu de boulot, mais vous pouvez le faire et ça peut donner des rendus un petit peu sympas, autres que ce qu'on voit dans les applications de base avec Windows 8, où c'est des grilles avec des éléments qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Donc, Soraya, tu nous fais une petite démo de tout ça ?
Alors, hop là. Est-ce qu'on voit ? Ah, on ne me voit plus.
Désactive le dual screen et réactive.
Alors. Je vais. Est-ce que ça va marcher ? Non, toujours pas.
C'est bon.
Si, on me voit. Alors. Je vais juste montrer d'abord. Je suis où ? Un template de base, donc ça c'est un template de base, et donc les anciennes list view, donc ça c'est une list view en fait, ce qu'il y a à droite, donc c'est vraiment une liste où on peut rien, voilà, j'ai beau sélectionner, je peux pas drag and dropper, je peux pas réordonner mes items, donc c'est vraiment une liste verticale. Donc maintenant avec WinJS 2.0, alors, je retrouve ma souris. Je vais juste d'abord vous montrer donc une petite démo des list view. Donc ici, j'ai fait trois listes view différentes sur une même page pour vous montrer déjà les différents layouts qui ont été implémentés. Donc là, on a la liste view de base, donc qui est verticale. Ici, on a l'horizontal list view, donc qui vous permet vraiment d'avoir une liste horizontale sur si vous faites des grands panoramas, vous pouvez mettre beaucoup d'éléments. Et ici, donc le cell spanning layout, qui vous permet d'avoir donc des éléments de taille différentes. Que vous pourrez ensuite réordonner. Donc, le calcul se fait directement dans la liste view. Donc, vous n'avez pas besoin de redire comment placer mes éléments dans la liste view. Voilà.
Pareil, tu peux montrer le drag and drop en haut.
En même temps. Donc, par exemple, si vous avez une application, vous voulez réordonner, par exemple, des listes de priorité, vous allez avoir besoin donc, de drag and dropper vos items. Donc, je peux le faire dans une même liste view. Donc mettre mon élément n'importe où, il va se remettre au bon endroit. Donc ça va être répercuté dans le code, donc au niveau des items. Et de la même façon, je peux déplacer mes éléments d'une list view à une autre sans aucun problème. Donc ça, c'est grâce donc, à la list view. Parce que je vois rien. Hop là. Donc au niveau de l'implémentation de la list view, donc, c'est un WinJS list view comme en WinJS 1.0.
Tout le monde voit à l'écran, c'est bon?
Et donc ensuite, juste pour activer donc, l'option de drag and drop et, la possibilité de réordonner nos items, on a juste ces deux options à mettre à trous pour activer ça. Donc ça, on l'avait en C# XAML, on ne l'avait pas encore en WinJS, donc maintenant, c'est intégré directement et c'est fait en 2 secondes dans le code. Donc pour le drag and drop, on a aussi donc, les événements qui sont liés. Donc, dans le JS, vous pouvez directement vous abonner à ces éléments. Donc, un drag start, donc c'est quand vous sélectionnez un élément, vous allez directement rentrer dans cet événement, donc le drag start. Un drag enter, c'est quand vous allez rentrer, quand vous allez déplacer un élément vers une autre list view. Donc, dès que vous allez rentrer dans la fenêtre de l'autre list view, bah, l'événement va être déclenché. Et de la même façon, le drag drop, donc quand vous allez lâcher votre élément dans la seconde list view, vous allez pouvoir choisir l'événement à faire.
Donc l'idée, c'est que, après, la logique, ce que vous mettez ici, dans le drop, au final, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on fait une copie, est-ce qu'on fait une suppression, etc. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais de base, en fait, la list view vous met à disposition les événements qui vous permettent de faire votre drag and drop. Et ce qui est intéressant, enfin, moi, je trouve intéressant, après, c'est à vous de voir, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, pour activer cette fonctionnalité, c'est un booléen à activer, true ou false. Et automatiquement, la list view gère après le fait de pouvoir réordonner, de pouvoir drag and dropper des éléments. Et du coup, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est que ce drag and drop, on pouvait le refaire en Windows 8.0. D'accord, voilà, il n'y a pas de vraie complexité. On pouvait le refaire, c'était juste un peu lent parce que fallait le faire à la main. Tandis que là, on active une propriété et c'est fini. Après, le code qui va derrière, ça, il reste propre à votre application. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de mystère. C'est vous qui, il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez mettre dedans. Pardon.
Et donc, pareil pour les différents layouts. Vous avez juste un grid layout et un list layout à paramétrer. Alors qu'en WinJS, il fallait paramétrer tout si la list view était scrollable pour pouvoir avoir quelque chose d'horizontal ou des choses comme ça. Et donc là, maintenant, tout est intégré. Vous avez juste à paramétrer ce layout. Donc, voilà.
Très bien.
Je vais relancer ça.
Ok. Alors, dans les autres... Donc ça, c'était au niveau de la liste view. Donc, contrôle déjà existant, en gros, réécrit from scratch, clairement, faut le savoir. Et ça, Microsoft le dit. Réécrit from scratch pour optimiser les PF et proposer de nouvelles fonctionnalités. À côté de ça, on a un nouveau contrôle, alors que vous allez retrouver sur une très grande partie des applications Windows 8.1, qui est le hub. Donc le hub, son intérêt, c'est de mettre en avant du contenu. Donc vous le retrouvez, enfin Surya vous le montrer, mais vous le retrouvez en fait dans l'application, enfin dans les applications type Bing Actu. Bing Météo, pardon. Donc en gros, la majorité des applications qui sont redéveloppées avec Windows 8.1 utilisent ce composant. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle un héros, c'est ça, un héros qui est mis en avant. Donc en gros, souvent c'est une image, c'est pas obligatoirement une image, mais c'est une image qui met en avant le contenu. Et ensuite, vous avez la suite des éléments qui va vous intéresser, que vous allez voir proposer à l'utilisateur. Donc c'est vraiment la mise en avant en fait, de contenu qui est favorisée avec ce contrôle. En termes d'utilisation, on reste dans du WinJS. D'accord, c'est une nouvelle version, mais c'est le même principe. Donc on a toujours une div. Sur cette div, on lui applique toujours un data win control. Après, vous lui mettez celui que vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est winjs.ui.hub. Et à l'intérieur, en fait, vous allez avoir différentes sections. Et sur chacune de ces sections, c'est pareil, ce sont des divs dans lesquelles vous allez appliquer un data win control. Et à l'intérieur, vous allez mettre des list view, des images, ce genre de choses. On va vous le montrer en démonstration, ce sera plus sympa que sur les slides. Mais si vous voulez récupérer les slides à la fin, vous pourrez les récupérer.
Voilà un exemple de hub. Donc, par exemple, l'appli santé qui est directement dans Windows 8. Donc ça, c'est un hub. Donc là, je n'ai pas Internet, donc la photo ne s'affiche pas. Mais voilà, vous pouvez mettre en avant une image principale dans votre application, donc en plein écran. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le hero. Et donc, qui va être ici. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre plusieurs types de listes différentes directement dans votre hub. Alors, au niveau de l'implémentation, je vois rien. Je vais montrer rapidement un hub. Donc voilà, là j'ai un hub développé grâce au template des hubs de WinJS. Donc là j'ai mon hero et pareil, donc différents hub sections que je vais ajouter dans mon hub. Alors, donc pour ceux qui ont connu WinJS 1.0, on n'avait pas encore les hubs, donc on utilisait surtout des grid views. Donc c'était vraiment des groupes d'éléments qui étaient tous vraiment identiques, donc aucune mise en avant, aucune différenciation vraiment de type d'éléments qu'on voulait mettre dans notre application. Donc ici, avec le hub, on peut vraiment faire des catégories indépendantes les unes des autres. Donc on peut mettre des vidéos, des images, des list view et des photos. Alors voilà. Donc ici, je déclare mon hub, donc le win control, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir, j'ai juste à ajouter à chaque fois des hub sections. Donc ici, j'en ai un. Donc c'est mon hero, donc ma grande image. Donc j'ai juste à mettre ma classe hero en fait, qui va donc prendre en compte que c'est une grande image à mettre en full screen au début de mon hub. Et ensuite, donc j'ai différentes sections. Donc ici, je vais avoir une list view directement intégrée dans le template de la section. Et du coup, je peux en mettre vraiment autant que je veux sans avoir besoin de créer une liste d'items que je vais en fait binder à ma grid view comme j'avais en WinJS 1.0. Donc ensuite, au niveau de chaque hub section, donc chaque catégorie, je peux aussi donc paramétrer le header, donc c'est le titre de ma section, et choisir si ce header donc va être statique ou pas. Pour la partie statique, donc je suis où ? Donc voilà, donc ça c'est une section. Donc là j'ai mon header, donc c'est list view, vidéo, form control. Donc il y a vraiment rien à implémenter, c'est juste dire voilà mon header c'est ce titre là. Et au niveau du statique, donc là c'est un titre non statique, donc c'est en fait c'est un titre qui va me, c'est un bouton qui va me rediriger vers une autre page. Alors que les titres statiques sont là vraiment juste pour faire figuration au niveau du contenu. Hop là. Voilà.
Très bien. Donc ce hub control est vraiment à utiliser quand vous voulez vraiment mettre en avant du contenu. Bien souvent, c'est des images, hein, comme vous avez pu le voir. Bien souvent, c'est des images. Donc vraiment, quand vous voulez mettre en avant du contenu proposé à l'utilisateur, il se focalise sur une image, sur une action, sur une vidéo, et ensuite, il défile sur la droite pour visualiser le reste en fait, des informations. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est vraiment vous qui définissez. Autre nouveauté en fait, dans les contrôles, une search box. Alors, la search box, c'est... Enfin, pour comprendre le concept de la search box, il faut savoir que Microsoft, enfin Windows 8.1, tire parti des erreurs de Windows 8. Donc dans Windows 8, Microsoft disait, pour faire de la recherche, on passe par la barre des charms, et dans la barre des charms, on clique sur la petite loupe, ça ouvre le search pane, le panneau de recherche en français, et l'utilisateur fait sa recherche, et puis les résultats s'affichent ensuite dans l'application. Donc on passe vraiment par le contrat de recherche. Donc ça, c'était pas mal, c'était implémenté dans les applications, il n'y a pas de souci, ça fonctionnait. L'inconvénient, c'est que nous, on l'a vu sur certaines applications, les gens lançaient l'application et disaient « Ok, c'est bien, il est joli votre dictionnaire, mais comment est-ce qu'on recherche dans ce dictionnaire, en fait ?» Donc la notion de recherche n'était pas forcément encore bien ancrée dans l'esprit des gens de dire « Il faut activer la barre des charms, il faut cliquer sur le bouton pour activer la fonctionnalité », ce genre de choses. Donc on trouvait toujours des petites astuces, des petites bidouilles de rajouter ici un petit bouton pour déclencher l'ouverture du volet de recherche, ce genre de choses, mais c'était pas vraiment dans l'esprit Windows 8. Et du coup, dans Windows 8.1, ce qu'a permis Microsoft, c'est l'utilisation d'une search box. Donc, c'est un composant que vous mettez où vous voulez dans votre application. Souvent, on va le retrouver en haut à droite. Et qui permet en fait à l'utilisateur de démarrer une recherche sans passer par la barre des charms, en fait, sans passer par le search pane. Donc c'est un composant qui ressemble à ça. Je vous ai mis une petite capture d'écran. Dans ce composant, vous allez pouvoir retrouver en fait, de l'autocomplétion. Dès que l'utilisateur commence à saisir du texte, vous pouvez afficher déjà une certaine liste de résultats, éventuellement cette liste de résultats pouvant venir d'un service tiers ou autre. Une liste d'autocomplétion, vous pouvez avoir déjà la liste de résultats. Mais le gros avantage, en fait, c'est que c'est vraiment intégré dans la page. On ne sort pas de la page, en fait, pour utiliser cette search box. L'autre intérêt aussi, c'est que si vous avez déjà une application Windows 8 et que vous dites je vais la migrer en fait en Windows 8.1, en 8.1, vous aviez le contrat de recherche. Ce contrat de recherche il s'appuyait principalement sur deux événements, suggestion requested et query submitted. La search box gère exactement les mêmes événements. Donc en gros, votre migration on va dire, de la partie recherche consiste uniquement en fait, à remplacer l'utilisation du search pane par une search box. Le reste des événements est le même, donc vous avez un impact limité à ce niveau-là, en fait, au niveau de votre migration. Donc là, je vous ai mis, voilà, ça c'est les événements qu'on a en fait sur la search box, et là, au niveau en fait du search pane, on a vraiment suggestion requested et query submitted. Tu me montres ça ?
Voilà. Donc, au niveau de la search box, je peux pareil vous montrer l'application. Je sais pas où on voit. L'application Santé Forme, donc pareil, qui reprend donc ce principe de search box qu'on peut voir ici, donc qui est discrète à première vue et donc qui va s'afficher en grand dans toute l'application en fait, quelle que soit la page, donc qui va nous permettre ensuite de rechercher des données n'importe où et n'importe quand. Donc voilà, c'est vraiment un search box, un truc dédié, donc c'est pas une text box, il n'y a pas de bouton qui a été créé juste pour ça, c'est vraiment la search box.
Ah, et sachant que, je te coupe, il y a un petit truc aussi qui peut être sympathique, c'est que là vous voyez que la search box, elle est ouverte, elle est dépliée, mais vous avez également la possibilité de lui dire finalement tu n'es qu'un bouton, tu n'es que le bouton avec la petite loupe, et quand l'utilisateur clique dessus, il y a une petite animation qui vient et qui déplie en fait la search box. Là en fait elle s'intègre bien parce qu'on est sur fond blanc et tout, mais effectivement quand on va arriver sur un fond avec une couleur, avoir du blanc sur la couleur c'est pas forcément l'idéal. Donc on a quand même cette possibilité de lui dire tu es en mode ouvert ou fermé, et si on est en mode fermé, c'est l'utilisateur qui va déplier la search box.
Voilà. Donc au niveau de l'implémentation, pareil, c'est assez simple. Voilà. Et donc au niveau de la search box, donc j'ai mon contrôle, donc c'est juste un WinJS UI search box. Donc j'ai juste à implémenter ça, il n'y a rien d'autre à faire. Et au niveau des événements, donc
sur la partie HTML.
Et donc au niveau des événements, donc on a donc la suggestion qui est implémentée. Donc dès que l'utilisateur va taper une lettre, eh bien ici on va parcourir par exemple une liste d'éléments et lui proposer le mot qui va correspondre à la lettre qu'il a tapée. Et pareil pour la soumission du mot que l'utilisateur a tapé. Donc on a un query submitted qui va ensuite permettre d'afficher les résultats de la page. Donc au niveau des suggestions, donc juste rapide. Donc voilà, j'ai ma search box. Donc j'ai juste mis search box, j'ai pas mis de template, j'ai pas choisi les couleurs, j'ai rien fait du tout. J'ai juste mis la search box et j'ai tout qui est implémenté. Donc là, je peux taper Voilà, taux. Et donc, j'ai tous les mots correspondants à ce que j'ai tapé qui vont s'afficher directement. Donc voilà, juste une list view, mon search box, et tout est fait directement. Donc n'hésitez pas à l'implémenter directement maintenant dans votre application, vu que c'est autorisé, et ainsi implémenter le search. Voilà.
Et elle ne vous l'a pas montré, mais la liste des éléments qui apparaît là, en fait, c'est un flyout qui contient un repeater, donc on verra à la fin. En gros, l'idée, c'est que vous avez un modèle de base, mais vous pouvez choisir aussi comment les éléments doivent être affichés en fait, dans cette liste de suggestions. Voilà. OK. Donc ça, c'était pour la partie UI graphique, j'allais dire. Maintenant, au niveau de la partie infrastructure, on va juste vous expliquer le système de scheduler. Donc en fait, la problématique qui a été rencontrée en fait dans les applications Windows 8, c'est de dire, donc on a une méthode JavaScript, donc qui n'est pas liée à Windows 8, on a une méthode JavaScript qui s'appelle setImmediate et qui permet en fait de faire d'exécuter une tâche juste après le rendu graphique. Donc il y a le rendu graphique, il y a les événements, tac, et dès que c'est fini, boum, on effectue notre tâche. L'inconvénient de cette... Alors, ça marche, hein, pas de souci, aussi bien en JavaScript que en Windows 8. L'inconvénient, c'est que si je fais plusieurs set immediate, c'est un peu compliqué à dire, si j'en lance plusieurs les uns à la suite des autres, alors que ce soit moi ou que ce soit même le code WinJS 1.0 qui le fait, parce qu'au final, c'est ce qu'il utilise aussi en interne, je ne suis pas garanti de savoir quelle fonction va être terminée avant l'autre. Je n'ai pas de notion de priorité au final quand je fais mes set immediate. Tu peux passer le slide ? Donc, j'ai mon code à moi, j'ai du code WinJS, j'ai du code système, tout ça, ça fait des set immediate. Vas-y. Du coup, j'ai plein de tâches qui se déclenchent. Donc, set immediate, ça prend en paramètre en fait, la fonction que vous voulez exécuter. Et du coup, voilà, je ne connais pas l'ordre d'exécution au final de mes différentes tâches. Donc, pour remédier à ça, ce qu'a proposé Microsoft, c'est d'implémenter un scheduler. Donc, le scheduler, il fait exactement la même chose que votre set immediate, sauf que vous allez pouvoir définir en fait en même temps une priorité. High, normal, idle. Donc il y a trois niveaux de priorité. Et au niveau de l'exécution, le scheduler, il va exécuter en premier les tâches avec une priorité high, ensuite normal, ensuite idle. Donc si tu appuies. Donc là, on a lancé plein de set immediate. Et après, en fonction de la priorité, on sait quelles sont les tâches qui vont être exécutées avant d'autres. Donc en termes d'utilisation, avant on avait notre set immediate de la méthode qu'on veut appeler. Maintenant on a un winjs.utilities.scheduler. Et dessus on a une méthode schedule qui prend en paramètre, toujours comme avant en fait, la méthode à exécuter, ça ne change pas. La seule différence au final, c'est qu'on a en fait une. Alors là on est passé par un intermédiaire, mais on a une winjs.utilities.scheduler.priority.normal high ou idle. Si tu appuies sur high ou idle. Et du coup, en fait, c'est vraiment le scheduler qui va planifier l'exécution de vos différentes tâches en fonction des priorités que vous aurez définies. OK. Ensuite, autre nouveauté introduite par Microsoft dans le cas de WinJS. Je dis dans le cas de WinJS parce que au final, ça existait déjà un petit peu ailleurs en fait. Ah, typiquement, on sait que ça existe. S'il y a des développeurs .NET dans la salle, pardon, on sait que ça existe en fait. Microsoft a introduit dans WinJS 2.0 le pattern dispose. La notion du pattern dispose, pardon. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de dire j'ai un objet. Alors on va l'appeler objet A, ce sera plus facile. J'ai un objet A et j'ai un objet B qui sont en mémoire. Voilà, j'ai instancié des classes A et B. Boum boum, elles sont en mémoire. Quand j'arrête d'utiliser B, donc qui est celui du dessus, quand j'arrête d'utiliser B, hop, à ce moment-là, il n'est plus utilisé, le garbage collector passe et il libère en fait de la mémoire les ressources utilisées par mon objet B. Pourquoi ? Parce qu'il détecte que l'objet n'est plus utilisé, donc ça ne sert à rien que les ressources restent en mémoire, on libère les mémoires associées. Ça, c'est le scénario où tout va bien, où on code correctement, c'est nickel. Maintenant, dans la vraie vie, on a plutôt tendance à avoir l'objet B qui va être lié à l'objet A. J'ai une classe qui utilise une autre classe, qui utilise elle-même une autre classe, etc. etc. Là, la problématique, c'est que si j'ai une référence de l'objet A vers l'objet B, quand mon garbage collector va passer, il va dire, vas-y, fais défiler les slides. Quand le garbage collector va passer, il va dire, bah ouais, mais ce truc-là, là, je peux pas l'enlever parce que j'ai toujours une référence à celui-là. Donc cet objet B là, il reste en mémoire. Du coup, si je navigue de page en page au fur et à mesure de mon application, bah, je vais avoir des objets qui s'entassent en fait en mémoire, et du coup, je vais avoir la mémoire qui ça monte. Alors, ça monte pas beaucoup. 5 kilos, 20 kilos, 1 méga, 2 mégas. Mais au bout d'un moment, bah, si l'utilisateur navigue vraiment longtemps dans l'application, bah, la mémoire elle fait et après l'application elle fait ça explose. Ce qui est normal en fait. Vous avez un problème de fuite mémoire. Donc pour empêcher ça, Microsoft a introduit simplement le pattern dispose dans WinJS et qui est de dire bah voilà, sur mon objet B, je vais appeler la méthode dispose. Vas-y. J'appelle la méthode dispose et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle casse en fait. L'idée c'est qu'elle casse le lien avec l'objet A et du coup quand le garbage collector passe, du coup mon objet se retrouve tout seul, non utilisé et tout seul. Du coup, quand le garbage collector passe, eh ben, il peut libérer en fait l'objet. Alors ça, c'est la théorie. D'accord ? Je vous parle d'objet A, d'objet B. En gros, vous comprenez pas grand-chose, ce qui est normal. Dans la vraie vie, et parce que c'est un cas en fait qu'on rencontrait avec Windows 8, voilà ce qui se passe. Quand vous créez un nouveau projet en fait dans Windows 8, en WinJS, vous avez donc tout un template de projet qui vous crée des fichiers JavaScript, CSS, etc. Et vous avez un fichier qui s'appelle data.js, en gros, que vous avez pu voir typiquement en plénière quand Michel a fait sa démonstration. Data.js qui contient en gros les données qui seront utilisées dans votre application. Donc ces données, elles sont statiques, elles proviennent d'un service ou autre, mais voilà, c'est les données de votre application. Et ensuite, doucement, vous avez dans votre application des pages. La home, la page de détail, la page des catégories, etc., etc. Chacune de ces pages, je vais mettre là, chacune de ces pages, en gros, va utiliser des composants graphiques. Typiquement une list view. Ici, imaginons que j'ai mes data, c'est une liste de personnes. Bah, je vais avoir une page qui va me lister ces différentes personnes. Et pour me lister ces différentes personnes, pour me les afficher, je vais utiliser une list view. Avec une notion de template pour dire, voilà, une personne, c'est une image, un nom, un prénom, etc. Mais voilà, j'ai une list view. Donc du coup, j'ai vraiment une référence, un lien entre ma liste view et ma page et mon data. Dans Windows 8.0, quand j'avais ce code et que je quittais la page, d'accord, bah ce truc-là était persisté en mémoire. Pourquoi? Parce que Windows, enfin le runtime, qu'est-ce qu'il disait? Bah il disait bah ok, donc ça c'est toujours lié à ça, ça c'est toujours vivant, j'en ai toujours besoin. Donc c'est à dire que ça j'en ai toujours besoin et que ça j'en ai toujours besoin. Or j'ai changé de page, donc j'en ai plus forcément besoin. Du coup, c'est là où ça se voyait vraiment. On avait en fait, bah, typiquement, la mémoire qui augmentait parce que à chaque fois qu'on revenait et qu'on quittait la page, eh ben, on rechargeait les données, mais on ne les libérait jamais. Du coup, la mémoire elle faisait comme ça. Donc, pour éviter ça, ce qu'a proposé Microsoft, c'est ce fameux pattern dispose. Et l'idée, c'est de dire, bah, sur le contrôle le plus haut niveau en fait de la page, donc en l'occurrence, bah, la page, j'appelle la méthode dispose. Et le fait d'appeler cette méthode dispose, ça va bah, tout simplement casser les différents liens entre mes objets, et du coup, ça va libérer en fait les références, et ce truc-là ne seront, ça, ce ne sera plus lié à ça, et ça, ce ne sera plus lié à ça. Du coup, ces deux objets-là sont indépendants, ils ne sont plus utilisés. Du coup, quand le garbage collector passe, et bah, ces objets-là en fait disparaissent de la mémoire. Ça, c'était un des vrais pièges qu'on avait en fait en Windows 8, parce que c'était tellement facile de se dire « Ah oh bah c'est bon, je lance mon application, très bien. Ah mais j'ai pas libéré en fait les ressources là. Bon, c'est pas grave, il se passe rien, je continue en fait. Il se passe rien, et au bout d'un moment, bah, votre client il fait bah, « Il se passe rien, mais l'application elle crache en fait. » Et là vous dites « Bah non, je comprends pas, moi quand j'essaye, la première fois ça marche. » Oui, sauf que lui il a essayé 3, 4, 5, 10 fois avant d'arriver en fait à faire cracher l'application. Donc ça c'était tellement facile à avoir comme bug, problème de fuite mémoire, c'est tellement facile que Microsoft a implémenté ce pattern. Et vous avez deux possibilités. Ou c'est vous qui faites le dispose à la main sur vos différents contrôles. Donc là, c'est-à-dire, par exemple, si vous implémentez votre propre contrôle WinJS, c'est à vous d'implémenter le dispose correctement. Ou alors, en fait, dans le template de projet de base de Visual Studio, vous avez un fichier qui s'appelle navigator.js qui gère toute la navigation, qui vous permet de dire je suis sur la page A, je veux naviguer sur la page B, etc. Et ben, ce fichier navigateur.js, il gère aussi pour vous le fait de disposer les, enfin, ouais, de disposer, de libérer en fait les différents éléments de manière automatique. Donc, si vous utilisez le template de projet par défaut, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, c'est fait automatiquement. Par contre, si vous créez votre propre composant contrôle WinJS, il faut implémenter le pattern dispose à la main pour éviter les problèmes de fuite mémoire. C'est la petite astuce que je peux vous donner. Et clairement, c'est beaucoup plus simplifié comme ça que quand on devait le faire avant. Vous n'avez pas connu avant, donc il faut me croire sur parole. Mais voilà. Ok. Ah oui, le repeater. Est-ce qu'il y a des gens qui font du XAML dans la salle ? Ouais, d'accord. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du XAML. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a comme alternative pour afficher des listes, d'accord, d'objets, hein, peu importe. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a comme alternative pour afficher des listes ? Ben, on a la liste view ou la grid view. Ça dépend suivant si je veux horizontal ou vertical. Même si maintenant, je peux faire du vertical avec de l'horizontal et vice-versa. Mais bon. En gros, j'ai deux composants principaux. Donc ça, c'est pas mal. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans certaines situations, on se retrouve quand même à utiliser des contrôles qui sont extrêmement étoffé en termes de fonctionnalité, alors que nous, ce qu'on veut, c'est juste afficher une liste avec le même modèle. Donc là, c'est ce que je marque sur les slides, c'est on utilise un peu en fait un bazooka pour tuer une mouche, quoi. C'est voilà, je veux afficher une liste, bah, c'est pas compliqué, tu prends le truc qui fait ça. Ouais, mais je veux faire juste ça. Ouais, mais tu prends ça en fait. Donc plutôt que de faire ça, on peut continuer à le faire, il n'y a pas de souci. Mais plutôt que de faire ça, on peut également utiliser un nouveau contrôle en WinJS qui s'appelle le repeater. Et le but, en fait, c'est d'afficher une liste d'éléments avec le même template, et c'est tout. Ce composant, il ne fait que ça. Il affiche les éléments suivant le template que vous avez défini. Il ne gère pas la sélection, il ne gère pas le clic, il ne gère pas les headers, il ne gère pas toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver typiquement sur la grid view ou la list view. Il gère juste l'affichage d'éléments uniques. Montre-nous-le en démo, ce sera plus parlant.
Donc une application qui affiche, qui utilise un bon repeater, donc c'est l'application météo. Donc voilà, donc ça c'est un repeater. Donc c'est une liste d'éléments, mais je ne peux pas cliquer dessus, il n'y a aucune interaction dessus, donc c'est vraiment juste de l'affichage de données. Et toutes ces données donc, utilisent le même template. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique si je veux juste réitérer toujours la même action pour le même type de données.
L'autre intérêt que ça a, c'est que si on aurait pu utiliser une grid view ou une list view pour afficher ça. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, c'est afficher une liste. Le problème, c'est qu'à utiliser un composant qui fait ça, bah, on charge en fait toute la partie graphique, et plus on a d'éléments graphiques à afficher, bah, plus on va avoir le runtime va mettre du temps à afficher ces éléments. Du coup, vous allez potentiellement avoir des petits effets de lag, ce genre de choses. Du coup, quand on veut juste afficher une liste d'éléments, ça ne sert à rien de prendre un composant qui fait la terre entière, on prend le sous-ensemble, le repeater, et ça fait clairement le job.
Bah c'est surtout au niveau d'une list view, on peut avoir des boutons. Donc au niveau de l'interface graphique, qui va à chaque fois calculer la taille du bouton, la margine qu'il doit avoir entre le contenu et le bouton. Donc ça va vraiment prendre beaucoup de temps à charger et parfois créer des problèmes graphiques au niveau de ce qu'on veut faire. Donc au niveau du code, maintenant avec le repeater, il va juste gérer juste l'affichage des éléments. Donc, il est là. Donc le repeater, donc voilà un WinJS UI repeater. Et dessus, j'ai juste à binder les data que je vais afficher et le template que je vais utiliser. Donc oh là là, donc ça c'est ma liste d'éléments que je vais afficher. Donc ça va être juste par exemple un chiffre et la couleur que je veux mettre à cet élément. Et donc ça suffit juste pour créer mon repeater. Donc voilà, on le voit ici. Donc voilà mon repeater. Donc c'est vraiment, c'est pas des boutons, c'est juste de l'affichage graphique. Et voilà, tout est généré dessus. Et donc c'est super rapide à afficher. Donc là, quand même, j'ai 100 éléments. C'était immédiat. Je peux en mettre 10 000. Ça va être aussi rapide parce que bah, il n'y a pas tous ces contrôles en plus qui sont les boutons, la sélection et des choses de genre là. Donc voilà.
Parfait.
Donc au niveau des autres contrôles.
Après, il y a d'autres contrôles. Alors, on va juste vous les montrer, mais il y a la navbar. Excusez-moi, la navbar, tout à fait. Il y a la navbar en fait, donc qui est une top app bar. mais qui a été revue, qui a été améliorée et qui s'utilise de manière beaucoup plus simple, en fait.
Donc
la barre, généralement, c'était le truc qu'on avait en bas. Bah, on a toujours en fait ces top-up bars, mais on a également en fait les nav bars. Donc là, qui sont plutôt utilisés dès qu'on veut faire de la navigation en fait au sein d'une app.
Donc ils sont vraiment beaucoup plus libres. On peut mettre des images, juste des boutons de navigation. Après, on peut faire aussi des sous-parties. Donc comme ici, voilà, donc des sous-parties. Donc en fait, ici, ça va juste ouvrir un layout où je vais juste instancier donc les éléments que je veux afficher. Donc voilà.
Ok, donc en résumé, en conclusion, WinJS 2, c'est quoi ? C'est alors des contrôles améliorés, des contrôles réécrits en fait, c'est même ça qu'il faut garder, c'est des contrôles réécrits, de nouveaux contrôles, beaucoup d'optimisation de performance, surtout en fait sur les tablettes ARM. Ça, c'est le point vraiment fort. Une facilité de débogage. Alors, c'est vrai qu'on ne vous l'a pas montré, mais Microsoft a travaillé en fait sur toute la notion de debugging asynchrone. Dans WinJS 1.0, quand on voulait faire du débogage de promise, donc qui sont les fonctions asynchrones, bah, quand on avait des promise qui appelaient des promise, qui appelaient des promise, quand on mettait un breakpoint, on regardait la call stack, et bah, y en avait partout, en fait. Il y avait des codes internes, il y avait du code à vous. Enfin, c'était vraiment très compliqué. De s'y retrouver. Du coup, pour retrouver simplement l'appel de l'appelant, on y passait facilement 5 minutes. Là, dans la nouvelle version en fait de WinJS 2, quand vous mettez un breakpoint sur une promise, dans la call stack, il va vraiment vous afficher que votre code à vous en fait. Du coup, c'est beaucoup plus simple en fait pour la partie débogage. Voilà, et encore plein d'autres choses, donc beaucoup de nouvelles API, comme ce qui vous a été évoqué en fait en plénière, beaucoup de nouvelles API, mais au moins pour la partie WinJS 2, les principales choses, c'était vraiment ça. Donc du coup, bah, c'est à vous de jouer en fait, à vous de faire des belles apps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, nous sommes preneurs, il nous reste encore un petit peu de temps, si je dis pas de bêtises, très bien, donc il nous reste un peu de temps. Donc n'hésitez pas, et sinon, merci, et on espère que ça vous aura plu. Une question. Oui, bien sûr. Donc la question c'est comment est-ce qu'on utilise Blend avec le code JavaScript ? Alors vous aviez fait du WinJS 1.0 ? C'est pareil en fait. Il n'y a pas au niveau de Blend, la grosse nouveauté en fait qui est apparue dans Blend, c'est la manipulation des storyboards. Donc maintenant on peut générer en fait des keyframes CSS depuis Blend en fait, chose qu'on ne pouvait pas faire avec WinJS 1. Voilà. Et sinon tout le reste est similaire en fait. Il n'y a pas eu d'autres grosses nouveautés. Des petits trucs à droite à gauche, mais sinon le code que vous écriviez avant, ça va être la même chose. L'utilisation que vous aviez de Blend avant est la même en fait que vous aurez avec WinJS 2. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Il y a toujours le mode interactif, qui est d'ailleurs très pratique, qu'on ne retrouve pas en XAML. Il y a toujours ce mode-là. Il y a l'édition des storyboards avec les différents keyframes, ça qu'on n'avait pas et qu'on retrouve, et ça qui est juste une tuerie en fait. Voilà. Après, c'est l'utilisation est la même en fait. Au jour le jour, l'utilisation est la même. Des questions ?
Non.
Bon. Eh ben, si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est là. Et puis sinon, merci et bon Tech Days.